Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Donc aujourd'hui, on est le lendemain d'un Bruxelles Scepticopop qui était consacré à l'astrologie avec Serge Madmorel. Et vous savez que j'ai pris l'habitude maintenant, quand les invités restent chez moi, la soirée, de faire un peu une discussion informelle le lendemain pour un peu avoir l'occasion de discuter de tout et de rien. Salut Serge!
Eh ben bonjour, bonjour Jean-Michel.
Ouais, c'est un peu. Je pense que les gens aiment bien quand c'est des discussions moins formelles que des présentations, conférences ou des interviews un peu structurées. Donc, généralement, j'ai un bon feedback sur l'aspect juste faire connaissance avec les gens, quoi. Mais c'est vrai que j'ai interviewé un certain nombre de fois sur le balado, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler aussi un peu comment. Comment es-tu revenu un sceptique via la philo aussi, mais raconte-nous un peu ça. Qui es-tu et comment es-tu devenu un zététicien?
Alors tout dépend combien de temps j'ai pour répondre. Tu m'as posé la question au début de notre premier balado, et j'ai répondu en 3 minutes, je crois, 4 minutes. Et c'était très frustrant d'ailleurs. Et là, tu me donnes combien de temps en fait?
Une heure, on peut consacrer l'heure à ça.
Ah ouais, carrément, voilà. Alors c'est vraiment une démarche qui est très longue, hein, qui est très progressive. Il y a beaucoup d'étapes. Je ne les ai pas toutes en tête, en fait. À chaque fois qu'on me pose la question, je retrouve des anecdotes. Mais c'est vrai que tout dépend par où on commence. Si on commence par comment est-ce que je suis tombé dans l'astrologie ou comment j'ai commencé à en sortir, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt le passage vers le scepticisme ou...
Oh non, tu peux parler de comment t'es tombé dans l'astrologie, je pense que ça intéresserait les gens.
Ouais, donc comme ça, j'ai envie de dire, ce qui a commencé en premier, c'est l'astronomie, où j'avais une dizaine d'années, et ma mère m'avait inscrit dans une colonie de vacances qui s'appelait Astro-Vélo. Astro-Vélo, c'est-à-dire que la journée, on pédalait, et le soir, il y avait un animateur qui sortait un immense télescope. Donc quand je dis immense, je me rends compte maintenant que j'étais gamin, donc le télescope me paraissait immense. Et on regardait les étoiles, c'était au mois d'août, je crois. Et un soir, donc, il nous dit, on va regarder Saturne. Et dans le ciel, il y a ce point blanc, Saturne. Bon, je savais que Saturne, que ça existait, mais j'en savais pas plus. Et puis les autres faisaient la queue devant ou derrière le télescope pour regarder. Et à un moment, donc, je mets l'œil sur l'oculaire. Et là, je vois Saturne. Et là, c'est l'illumination. Je me dis, waouh, là, il se passe quelque chose en moi. C'est-à-dire que je regarde de nouveau le ciel, je vois ce point blanc, une étoile, quoi. Puis je remets l'œil sur l'oculaire, et je vois cette tache blanche, parce qu'on ne voyait pas non plus les couleurs et tout ça, une tache blanche entourée d'un anneau, et je me dis, mince, mais ça paraissait proche de moi. Et je regarde encore le ciel, il y a ce point blanc là-haut, et puis je regarde dans l'oculaire, et donc je me rends compte qu'il y a énormément de choses au-delà de l'atmosphère, on va dire. Et je me dis, mais il y a plein de choses à découvrir là-bas. Et c'est comme ça que je tombe dans l'astronomie. Mmh. Donc mon adolescence, je vais la passer à bouffer des bouquins d'astronomie et essayer de... Donc c'est de la petite astronomie, en fait. Hein. Et je me rappelle, en terminale, par exemple, je passais mon temps à lire un dictionnaire d'astronomie. Donc j'avais commencé à la lettre A et voilà. Donc j'étais un petit peu astronome. Mais un tout petit peu, parce que c'était vraiment la théorie qui m'intéressait, je n'étais pas du tout observateur. Je n'étais pas dans un club d'astronomie, donc malheureusement, ça m'a manqué. Et donc, bien des années plus tard, en fait, j'avais 19 ans, et donc je suis tombé là dans l'astrologie, vraiment comme beaucoup de gens, je pense, pour des raisons tout à fait humaines. C'est-à-dire, c'est un gros chagrin d'amour. Je m'effondre après une rupture amoureuse et j'avais pas du tout les structures mentales pour faire face à ça à ce moment-là, en tout cas. Et donc pendant 2 ans, je fais une petite dépression, j'étais en maths à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller voir un petit peu les voyants, les astrologues, piocher un peu dans la numérologie, des choses comme ça. Essayer vraiment de. Enfin, je connaissais pas du tout et puis ça me permettait de redonner un sens à des choses, retrouver un peu de l'énergie, je sais pas. Et c'est vraiment comme ça que je suis tombé là-dedans. Et il se trouve aussi, pour compléter mon arrivée à l'astrologie, que quand j'avais donc 10 ans toujours, je me suis fait mordre au visage par le chien de mon parrain, donc qui m'a arraché la lèvre en fait. C'était au mois d'août 84, et juste avant que je rentre au collège. Donc je suis rentré au collège avec ça. Et juste au moment où mes parents se séparaient, Donc vraiment tout ce qu'il fallait pour que ce soit un petit peu n'importe quoi dans mon esprit. Donc mes années collège sont aussi des moments d'introversion pour moi. Et je commence à me poser des questions sur moi, à m'introspecter, à me rendre compte que je me pose des questions que les autres ne se posent pas. Et je me construis un petit profil psychologique à moi, comme ça. Et en me disant, bah, je suis unique, quoi. Je regarde autour de moi, il n'y a personne qui pense comme moi, qui se pose des questions comme moi, etc. Et donc, à 19 ans, après ma rupture amoureuse, à un moment, je m'achète les prévisions de l'année de l'astrologue Didier Derlich, qui est décédé depuis, donc les prévisions du Verseau. Et il y avait un petit portrait du Verseau. Et je lis le portrait du Verseau, et là je me prends des claques. C'est-à-dire qu'il me décrit tel que je me suis construit. C'est-à-dire, alors c'est dans les grandes lignes, hein, mais c'est-à-dire la personne qui vit dans sa tour d'ivoire, qui adore tout ce qui est nouveau, tout ce qui est science, astronomie en particulier, et qui est le non conventionnel, qui est un peu visionnaire, qui s'intéresse à l'avenir, des choses comme ça. Et là je me dis, mais c'est pas possible, c'est. Il n'y a personne autour de moi comme ça, et pourquoi est-ce que ça correspond si bien, tout en sachant que c'est destiné à un douzième de la population. La grosse contradiction, évidemment. Mais en même temps, je me dis, c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça que je rentre vraiment dans l'astrologie, en me disant, il faut que j'aille voir pourquoi ça me correspond autant, alors que c'est des choses dont je parle à personne. Et le hasard fait que, quand je monte mon thème de naissance, en fait. J'ai un certain nombre de planètes dans le signe du Verseau. Parce que comme elles se répartissent un peu de partout dans le zodiaque, en gros, il y a beaucoup de gens qui n'ont que le Soleil dans le signe de naissance. Donc ce sont entre guillemets des faux. C'est-à-dire qu'un Verseau qui a juste le Soleil dans son signe, bah, il a toutes les autres planètes ailleurs, donc dans d'autres signes, donc il est moins Verseau que d'autres. Il se trouvait que moi j'en ai 4 dans le signe du Verseau. Et donc je me dis mince, mais c'est peut-être pour ça que ça me correspond vraiment. Donc ça a été un moteur. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans la pratique. Et puis, donc, les années sont passées.
C'est intéressant ton clair rapport, mais donc t'as
Ouais.
l'impression que l'astronomie a quand même été bizarrement un pont vers l'astrologie.
Ah oui.
L'intérêt pour les planètes aurait influencé ou
Je suis vraiment pas sûr, parce que je me demande si j'étais pas quand même assez sceptique pendant mon adolescence. Mais en fait, c'est autour de moi qu'il y a des gens qui s'y intéressaient. Mais je pense que le premier contact, c'est plutôt fait comme ça, en fait. Et en fait, le jour où j'achète ces prévisions, c'est pas par hasard. C'est que j'avais déjà regardé un petit peu, j'avais dû lire un petit peu des bouquins là-dessus. Mais ce moment-là, par contre, est particulièrement fort pour moi, en fait. Mais non, c'est pas l'astronomie qui m'a amené à l'astrologie. Je pense pas. Ça s'est pas passé comme ça, en tout cas. Mais par contre, j'avais cet intérêt pour l'astronomie à côté, ce qui m'a facilité peut-être un petit peu aussi l'accès à l'astrologie sous d'autres points. Mais en même temps, ça m'a amené aussi avec un esprit critique dès le départ par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire que ben, moi, les questions, je dirais un peu physiques, scientifiques, je les connaissais. J'étais sensible à une partie de la critique. Puis il y en a une autre que je rejetais, en fait. De par ma formation, puisque après je suis rentré à la fac en maths puis en physique. Donc j'avais déjà, par rapport à d'autres astrologues, une approche pas à 100%, on va dire. Et puis voilà, les années sont passées et je suis rentré en contact avec le milieu astrologique quelques années plus tard, parce que je commençais à produire un peu des écrits et je suis rentré dans la communauté astrologique par le biais d'une association qui s'appelle la FDAF, la Fédération des astrologues francophones. Et donc pour la petite histoire, j'avais envoyé un texte et puis donc ça avait beaucoup plu au président qui m'avait appelé. Et donc j'étais allé à l'Assemblée Générale et il se trouvait que le trésorier venait de partir, il cherchait un trésorier. Comme dans toutes les assos, personne ne veut faire la trésorerie. Et comme moi j'aimais bien les chiffres, je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait, donc je suis devenu trésorier comme ça, en connaissant quasiment personne en fait. Et je suis resté après, je sais plus si c'est 8 ou 10 ans, je crois que c'est 8 ans, à la Fédération. Donc là, je me suis vraiment trouvé au contact des astrologues. Donc j'ai rencontré les astrologues, j'ai communiqué beaucoup par internet aussi avec eux, on a beaucoup échangé. Et c'est vrai que ça a beaucoup nourri j'ai envie de dire ma critique, ce qui était à l'époque une autocritique en fait de l'astrologie. Et donc j'ai commencé à voir que je pouvais poser des questions que les autres ne posaient pas, qu'il y avait des questions interdites. Et donc bah, moi c'est ça qui m'intéressait. Et il y a un moment, pendant mon cursus de philo, puisque je suis passé en philo après la physique, je me suis dit, mince, mais je vais faire comme Descartes. C'est-à-dire que je vais suspendre mon jugement et je vais essayer de tout reprendre à zéro. Et puis, ben, on va faire le tri. Et puis, ben, ce qui ne va pas, on le rejette. Ce qui va, on le garde. Et puis, ça y est, c'est fini. Une approche d'une naïveté, quand j'y pense, c'était incroyable. Mais au moins, j'y suis allé comme ça. Et ça m'a permis, en tout cas, d'essayer de faire le ménage en question. Donc, au début, je me rappelle, j'ai commencé par lister des arguments. Donc, c'était pas sérieux, quoi. J'étais pas du tout dans une recherche bibliographique avec des bouquins spécialisés où les auteurs avaient déjà fait un gros travail. J'allais chercher dans les magazines, donc dans les dossiers des différents magazines, et puis je faisais la liste des arguments et j'essayais d'y répondre. Donc, ça a été vraiment mon premier vrai contact avec les débats sur l'astrologie. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais donner des réponses à pas mal de critiques, soit sur le plan technique, soit sur le plan humain. Mais par contre, il y en a certaines où je ne pouvais pas donner de réponse. Et notamment, la grosse critique qui est pourtant classique, c'est l'argument de la tour Eiffel. Donc c'est Henri Brock qui disait ça, qu'en termes d'influence gravitationnelle, la tour Eiffel a bien plus d'influence sur un être humain qui se trouve à proximité, et même à une certaine distance, que n'importe quelle planète. Et ça, je l'ai retourné dans tous les sens, j'ai essayé d'y répondre. Et celui-là, j'ai pas trouvé de réponse. Donc il y a eu deux, trois arguments comme ça qui m'ont posé problème et qui m'ont fait me rendre compte que la critique ne pouvait pas être rejetée intégralement. Il y avait des choses à en tirer, et je pense que c'est là que j'ai commencé à essayer de peser aussi le pour et le contre de la critique, que j'aurais pu avoir tendance à rejeter intégralement. Et donc la démarche s'est complexifiée petit à petit.
Ouais, pour moi, c'est souvent difficile de m'imaginer parce que, comme je connais pas les milieux astrologiques,
Oui.
est-ce que ça veut dire que la. En fait, souvent, quand moi je lis l'argument de la Tour Eiffel, je me dis, mais est-ce que les astrologues croient vraiment que l'astrologie s'explique par la force de la gravitation? Je me dis, est-ce qu'ils sont entre guillemets naïfs à ce point-là de penser que c'est la force de gravitation? T'as l'impression que les astrologues se raccrochent à ça pour expliquer, comme fond théorique, pour expliquer. L'influence des planètes ou ils invoquent d'autres choses.
Alors, plus maintenant, je pense que c'est moi, dans ma relation au monde, qui me posais la question en me disant, bah, la science, elle est là, quoi. Elle marche, il y a des... elle a montré son efficacité. Donc, si les astres nous influencent, c'est le mot influence, en fait, qui porte tout, eh ben, il doit y avoir une influence. Et donc, j'étais allé voir un peu ce qui avait été fait. Et je n'arrivais pas, moi, à m'imaginer un impact, je préfère le mot impact des astres sur les hommes, qui ne passerait pas par une influence qui fait influence physique, en fait, causalité. Après.
Bah, c'est vrai que la gravitation, ce serait la chose qui. Je pense qu'on le lit parfois en disant, bah oui, les marées sont faites par la force de gravitation, donc pourquoi pas imaginer une influence, en tout cas de la Lune, sur le comportement, des choses comme ça, mais.
Alors, c'est souvent, mais en fait, c'est l'argument qui revient chez les astrologues, qui est dénoncé depuis longtemps par tout le monde, c'est de dire, bah, puisque la Lune influence, enfin, a une influence sur les marées, pourquoi pas sur nous? Et par extension, et c'est là aussi l'erreur, pourquoi pas les autres planètes? Les planètes, en fait. Donc ça, c'est une généralisation qui est complètement fausse, évidemment. Ça passe par ce biais-là chez les astrologues. Après, là, en question de bibliographie, c'est un travail que je n'ai pas fait. Mais moi, je pense que des astrologues étaient prêts à envisager cette explication, mais que le XXe siècle a été vraiment dense en termes de critiques scientifiques, et que c'est une hypothèse qui a petit à petit disparu. Et maintenant, les astrologues, c'est vrai, ne réclament pas une influence gravitationnelle, et donc, au contraire, l'ont quasiment rejetée pour se démarquer de l'approche scientifique. Donc, en tout cas, pour moi, ça faisait sens de me poser la question au début en voulant essayer de prouver finalement l'astrologie.
Ouais, donc dans le fond, c'est un bon argument, mais qui probablement s'adresse à une position passée, quoi, mais qui vaut la peine d'être répétée.
Alors, de toute façon, oui. De toute façon, oui. Donc, ça, merci.
Non, au niveau de la. Juste parce que. Hier, dans la conférence, tu as abordé la question comment est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui à l'astrologie?
Oui.
Je veux dire, d'une certaine façon, j'ai envie de dire bien sûr qu'on peut encore croire aujourd'hui à l'astrologie, mais juste dans ton témoignage, là, j'ai l'impression que tu as l'air de dire, et ce qui ne m'étonne pas vraiment, qu'il y avait beaucoup d'impact émotionnel finalement, que tu ressentais beaucoup de choses. Oui, c'est ça, il y a une sorte de. D'ailleurs, hier dans ta conférence, tu avais l'air de dire, enfin, tu utilisais pratiquement parfois du vocabulaire un peu mystique pour décrire ce que tu avais ressenti.
Oui.
Est-ce que c'était vraiment. Enfin, Est-ce que c'était vraiment ce que j'ai eu l'impression de comprendre, quoi, une relation un peu mystique à l'astrologie, avec des émotions fortes par rapport à ça ou...
Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr, moi, quand je suis tombé dedans, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, comment dire, bah déjà quand j'ai fait mon propre thème de naissance, donc avec des jugements astrologiques sur ma personnalité, donc il y en a pas mal dans lesquels je me retrouvais, qui rejoignaient l'anecdote dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y en a d'autres dans lesquels je ne me reconnaissais pas, puis il y en a d'autres vraiment qui, ou même qui me laissaient indifférent, et finalement, bon, ben, on va réfléchir sur ce qui nous parle. Et c'est vrai que ça m'a permis de continuer l'introspection que j'avais commencé auparavant. Et donc, je sais par exemple maintenant que je correspond vraiment au stéréotype du Verseau. La question est-ce que c'est parce que je suis Verseau ou est-ce que c'est parce que, à force de lire sur le Verseau, je me suis finalement conformé à ça? Aujourd'hui, je serais bien incapable de répondre. En tout cas, n'étant pas astrologue, donc de toute façon, je pense que je me suis formé à ça. Mais. J'ai perdu le fil.
Oui. Je pensais que tu dis n'étant pas tu es
Oui.
astrologue, c'était pas n'étant pas psychologue, c'est ça que tu voulais dire ou quelque chose comme ça ou...
Non, je ne suis pas astrologue.
Ah, tu veux dire que tu n'étais pas astrologue.
Oui, donc je ne peux
Ok.
pas dire que c'est parce que je suis Verseau que je suis comme ça.
D'accord,
C'est dans le
ok.
sens-là. Mais je veux dire, pour retrouver l'origine du fait que je corresponde au Verseau, finalement,
Ah
c'est pas
ouais.
évident de le retrouver. Si on veut vraiment la chercher, c'est pas simple. Donc tu me posais la question des ressentis. Franchement, en termes d'introspection, à chaque fois que j'avais l'impression de comprendre quelque chose sur moi, ça faisait un effet très très fort. Et après, donc j'ai eu une représentation du monde très mystique, effectivement. Je faisais des méditations tout seul dans mon coin, des choses comme ça, où vraiment je planais. Quelque part, je ne comprenais pas que les gens se droguent pour atteindre des états comme cela. Moi, j'avais pas besoin, hein, tout seul, je me mettais sur mon lit et je commençais à méditer, je ne sais pas comment je faisais ça. Et donc, c'était très très fort à l'intérieur de moi. Ce qui fait que j'avais, moi, quand je disais des astrologues qui disaient qu'il y avait vraiment quelque chose dans le cosmos, qu'on était en lien avec le cosmos, ça résonnait avec ce que je ressentais. Et donc, l'un des trucs dont j'ai parlé hier soir, c'est en 2010, je pense, où je suis en train de travailler donc sur l'astrologie, et j'essaye toujours de la défendre, de la prouver, et j'écris quelque chose. Alors je ne sais plus quoi, je suis pas retourné voir, et j'ai l'impression de faire une découverte, et je suis très très satisfait de ce que je viens de décrire, et à tel point qu'il faut que je m'arrête parce que c'est en train de s'enflammer en moi, j'ai l'impression de communier avec l'univers, etc. Enfin, je me dis, ça y est, il y a quelque chose. Je suis un peu le nouvel Einstein, peut-être. J'ai compris quelque chose, gna gna gna. Et puis, le lendemain, je reprends mes textes, je me relis. Et là, je me rends compte, non seulement que je suis pas d'accord avec certaines choses, mais en plus que j'en ai oublié, donc j'ai fait des erreurs. Et finalement, le texte que j'ai produit, je ne peux plus l'accepter. Et là, c'est terrible. Parce que vraiment, ce que j'ai ressenti la veille, qui était extraordinaire, qui était fort, qui validait un peu ma démarche, ben je me rends compte que c'était fondé sur du faux. Et là, je me dis, mince, mais ce que je ressens, c'est pas connecté avec ce qui est vrai et ce qui est faux, finalement. Il y a un décalage. Et là, maintenant, j'en parle très facilement, mais il m'a fallu des jours ou des semaines pour arriver à dépasser ça et à me rendre compte de ce qui était en train de se passer en moi. Et ça, c'est vraiment un moment clé dans mon parcours. Un moment où je prends de la distance par rapport à mon intériorité et donc à l'intériorité des autres astrologues, puisque finalement les astrologues se reconnaissent aussi là-dedans, une certaine forme de sagesse, de recherche d'amélioration de soi, d'introspection, qui ne relève pas de la technique astrologique, mais ils se reconnaissent un peu là-dedans. Certains, enfin, il y en a beaucoup qui sont dans la spiritualité, il y en a d'autres qui rejettent ça en disant non, c'est pas de la spiritualité, l'astrologie ça marche. On est au-delà de la croyance, mais bon, ça revient pour moi au même. Et là, je prends vraiment de la distance et je commence à me rendre compte que finalement, le travail que je suis en train de faire sur l'astrologie, c'est peut-être plus un travail que vraiment une démarche de connaissance pure. Donc là, dans l'idée de me rapprocher du scepticisme, là, il y a un moment qui est vraiment fort. Et après, il y a plein d'autres étapes qui sont importantes aussi. Le contact, notamment avec les sceptiques, et notamment indirectement, donc on doit être en 2011, je pense, ou en 2012, et je viens à Grenoble avec une autre association, et donc on vient parce qu'il y en a un d'entre nous c'est-à-dire qui doit être membre de l'EZ, et qui va. Et donc on vient assister à une présentation, donc juste pour nous, on est une vingtaine de la SOS. Et donc c'est le moment où je rencontre en vrai l'Observatoire zététique. Auparavant, on avait échangé par mail, on s'était pris la tête sur des problèmes, sur des questions théoriques, des choses comme ça. Et là j'y vais. Et puis, donc, je les rencontre en vrai. Donc, j'y vais un petit peu le cœur battant en me disant comment je vais être accueilli, quoi. Je vais rencontrer Florent Martin, que je vois de partout dans les médias et tout ça. Et puis, donc, il y a Florent qui m'accueille, voilà, qui me dit bonjour normalement. Et puis, il y a Nicolas Vivant qui est là. Et donc, je vais lui dire bonjour aussi. Et puis, on commence à discuter. Et Nicolas me dit, mais tu sais, j'adore ce que tu fais sur la critique de la critique. Et là, je me prends ça dans la figure. Je me dis quoi? Je m'attendais à ce qu'on commence un débat ou qu'il soit pas d'accord ou je sais pas quoi. Et il me dit, j'adore ce que tu fais. Et moi, j'étais à un moment où j'étais sur le point d'abandonner mon travail parce que j'avais très peu de retour finalement sur ce travail-là. Et là, je me dis, mince, mais il y a des gens qui connaissent mon travail, qui l'apprécient. Il y a juste qu'ils ne me disent pas. C'est pour ça que moi, dès que je vois un texte sur Internet que j'apprécie ou des gens qui publient des choses que j'apprécie, je le mets. Je mets un commentaire. Alors, j'en mets beaucoup finalement. Mais je sais que c'est important pour les gens et qu'ils voient qu'ils ne travaillent pas pour rien. Et je pousse les gens qui n'en mettent pas à en mettre en disant, mais likez, dites que vous êtes content, donnez un petit point de vue. Et les auteurs, comment dire, ont ce retour. Humainement parlant, c'est important. C'est un moteur aussi pour continuer de travailler. Et donc, ce moment où Nicolas me dit ça, j'avoue que moi, ça me relance. Et juste après, donc on discute, tout ça. Et puis, quelques temps après, je vais être invité à l'UZ. Donc l'Ultimate Z, la réunion sceptique annuelle de l'Observatoire zététique. Et donc je vais leur faire une présentation sur ce que je fais. Et là j'avoue que dans mon esprit, tout change de dimension. Et là je me rends compte que ben, finalement, les sceptiques sont même plus intéressés par mon travail que les astrologues. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et puis après, en y réfléchissant, je me rappelle aussi d'une fessée que j'ai prise sur Internet. Donc c'était avant l'an 2000, donc c'était au tout début, j'avais aucun bagage théorique dans le domaine. Et j'avais participé à un petit débat sur un forum, et je me suis pris une fessée par un sceptique, donc je me rappelle, qui s'appelle François Demier, j'ai gardé son nom, que je ne connais absolument pas, et il m'avait fait toute une référence, vraiment un texte sérieux en fait, avec des arguments. Et j'étais incapable d'y répondre parce que lui connaissait la littérature sur le sujet. Et là, je m'étais rendu compte, donc c'était avant l'an 2000, hein, donc c'est loin. Et je me rappelle, je l'ai imprimé son texte, donc je l'ai encore chez moi. Et là, je m'étais rendu compte qu'il fallait que j'approfondisse les choses, que j'aille beaucoup plus loin et que ben, les sceptiques avaient aussi des choses déjà un petit peu intéressantes à dire. Donc voilà, tu vois, il y a plein de. Enfin, c'est vraiment un parcours qui est long, qui est plein de circonstances, de contingences.
Bah, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas été, ouais, c'est ça, enfin, offensé par les sceptiques. Parce que souvent, on a les gens qui sont confrontés aux sceptiques, ils tombent, je sais pas, sur la page de zététique de
Oui.
Facebook, etc. Et puis, ils tombent sur des remarques assez acerbes, etc. Et ça les cabre plus qu'autre chose, quoi.
Alors, ben maintenant que tu en parles, je suis passé par là aussi, mais avant. Et en fait, j'ai monté mon site internet en 2006, quand je suis revenu de mon master à la Sorbonne. Et sur ce vieux site internet, qui est toujours en ligne, qui est imbuvable, il y a des centaines de pages de texte sans illustration, comme on disait hier soir. Et ça y est, j'ai encore perdu le fil. Oui, et donc j'ai eu des contacts avec les zététiques. On s'est un peu fighté, on a combattu, on a débattu. Et puis, bah, notamment, j'ai eu un débat avec Richard, mon voisin, un débat avec Nicolas Gauvry, enfin, rapide, hein, sur quelques mails. Je me rappelle aussi avec l'OZ. Enfin, bon. Et donc, à ce moment-là, je le vivais très mal. C'était difficile de prendre des arguments comme ça. Et en fait, quand j'ai monté mon site internet, c'est pour ça que j'en parle, comme c'était un site internet qui s'appelait l'astrologie face à elle-même, donc c'est déjà une autocritique de l'astrologie. J'ai eu beaucoup de débats avec des astrologues qui venaient au début me dire, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, je ne suis pas d'accord, etc. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appris à prendre de la distance avec mes idées. Tu vois, prendre de la distance avec mes ressentis, c'est venu plus tard, mais prendre de la distance avec mes idées, c'est venu à ce moment-là. J'ai eu énormément de débats avec les gens. Et au début, chaque argument contre moi, j'explosais parce que j'avais l'impression d'être touché au fond, plus profond de moi. Et j'ai appris à m'en protéger, en fait, à me blinder, et finalement à être plus serein dans mon travail d'argumentation. Ce qui fait qu'après, quand j'ai repris contact un peu avec les sceptiques, avec les débats, j'étais un petit peu immunisé contre ça, quoi.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'on en a un peu parlé informellement avant de commencer à enregistrer, mais enfin, particulièrement hier soir après la conférence, je pense qu'il y a la question de la. Oui, de la. De, finalement, on a l'impression que les gens veulent plus critiquer l'astrologie parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, que tout a déjà été fait, etc. Comment tu... Enfin, c'est un problème que Jérémy et moi, on évoque souvent sur l'idée... finalement, dans la communauté zététique, on a l'impression que les sujets classiques du paranormal ne sont plus tellement intéressants. Enfin, il y a beaucoup de sceptiques qui préfèrent s'étriper sur la politique, sur les positions de Jean Bricmont, sur la religion, casser du cycle sur la religion. Et puis, et les vieux sujets comme les ovnis, le paranormal et l'astrologie sont un peu mis au rabais, quoi. Comment tu justifies, en fait, ton travail en disant... est-ce que tu trouves que... Comment tu dis... s'il y a un jeune qui nous écoute, il dit, man, ça sert à rien de travailler sur l'astrologie, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver à travailler sur ce sujet-là?
Oui. Alors, moi, je pense que c'est mon parcours qui fait que je suis tant engagé dans ce travail, que ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis revenu de la Sorbonne, qui a vraiment modifié mon approche des choses, mais ça fait presque 15 ans que je travaille là-dessus. Mmh. Et pendant mon master, moi, j'ai travaillé sur les travaux de Kepler, l'astronome Kepler, donc au début du 17e, et on pourrait se demander quel est l'intérêt de travailler sur Kepler, en plus ça a déjà été pas mal fait. Et en fait, finalement, c'est l'histoire des sciences. Et l'histoire des sciences, c'est passionnant de voir comment la pensée s'exerçait à d'autres périodes, quand les gens n'avaient pas les connaissances de maintenant, qui se posaient des questions très différemment de nous. Et on apprend beaucoup en faisant l'histoire des sciences. Ça relativise vraiment, on n'est pas prisonnier des débats contemporains, avec tout le background scientifique qu'on a maintenant. Et ça peut même nous aider, je pense, à comprendre mieux ce qui se passe dans l'esprit des gens qui n'ont pas la formation scientifique. Donc qui n'ont pas les connaissances actuelles, quand on lit Kepler, il n'a pas ses connaissances, par exemple. Et c'est génial de le voir se dépatouiller avec ses problèmes et ses questionnements. Et moi, réellement, ça fait quelques années déjà, j'ai l'impression, avec l'astrologie, de faire un peu de l'histoire des sciences. C'est de l'histoire des sciences au présent. Dans le sens où, alors c'est vraiment une métaphore, hein, c'est pas à prendre au mot, c'est vraiment dans le sens où... l'astrologie, c'est comme s'il vivait un petit peu en dehors du monde contemporain, et donc il continue d'appliquer des vieilles recettes, des choses comme ça, et à ne pas tenir compte des avancées scientifiques, et notamment depuis quelques années, tout ce qu'on appelle biais cognitifs, et qui, à mon avis, sont vraiment idéales pour rendre compte de ce qui se passe dans la pratique de l'astrologie. Et donc, cette formation-là me permet, moi, de trouver un intérêt à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des astrologues et comprendre pourquoi ils continuent, eux, d'y croire. Et moi, je suis persuadé, c'était l'objet de la conférence d'hier, que ce que j'appelle l'outil astrologique, ce qu'ils utilisent, quoi, les signes, les maisons, les planètes, enfin, leurs planètes, les incite, les trompe, en fait, en permanence, et les incite à continuer à y croire. Donc... essayer de comprendre comment on peut se tromper à ce point-là malgré toutes les connaissances qu'on a, franchement, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Après, réellement, il y a peu de gens qui se rendent compte de la complexité de la chose. Réellement, moi, j'ai l'impression de m'être attaqué à une montagne. Au début, je ne pensais pas, d'ailleurs, je pensais que ça serait assez rapidement réglé, quoi. Et c'est un sujet qui est très, très complexe. Il y a énormément de choses à faire dedans. Moi, j'ai un programme d'une dizaine de bouquins sans problème, sur des thèmes soit qui touchent à l'histoire. Moi, j'avoue qu'il y a un thème que j'aimerais travailler, c'est la causalité en astrologie, depuis l'origine. Mm-hmm. C'est-à-dire comment les astrologues ont essayé de justifier causalement l'astrologie. Sachant que quand tu remontes 2000 ans en arrière, on n'avait aucune idée de la physique, de choses comme ça, mais il y avait déjà des justifications. Est-ce que c'était le mot « influence », par exemple, vient du fait qu'on imaginait quelque chose qui s'écoulait du ciel et qui tombait sur la terre, un peu comme la pluie. Et donc l'influence des astres aurait pu être une sorte de pluie. Alors, c'est pas une pluie, mais un liquide, quelque chose qui coule, qui s'écoule sur les gens. Et donc, ben, comment les astrologues imaginaient ça, par exemple? J'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps d'aller voir ces questions. Mais j'avoue qu'au fil des siècles, au fil de l'évolution des connaissances, des civilisations, des questionnements des gens, l'évolution de la justification astrologique en termes de causalité, moi ça c'est un truc que je... c'est un sujet, j'aimerais pouvoir écrire un bouquin là-dessus. Et le XXe siècle est vraiment, ben forcément très très important, parce que là la critique scientifique a été vraiment intense, et donc là, le problème de la causalité a été réglé, pour moi à ce moment-là, même s'il aurait... il était peut-être déjà un petit peu avant, et je pense que les astrologues, l'impact sur les astrologues, ça a été justement à un moment d'en arriver à la conclusion qu'il fallait rejeter la causalité. Si l'astrologie marchait, ça doit être sans causalité. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'être cosmique, ça doit être vers les années vers 1980, et qui pose l'idée d'un paradigme astrologique qui ne serait justement pas le paradigme scientifique. Parce que j'en avais lu, je trouve que c'était un peu incohérent, mais dans l'idée, chez les astrologues, c'est assez représentatif. C'est-à-dire, non, finalement, il n'y a pas de causalité. Mais est-ce qu'ils le disent parce que ben on peut vraiment plus le dire, donc c'est une posture en fait, ou alors est-ce que vraiment c'est une conclusion forte? Et en fait, quand on regarde les textes des anciens astrologues, ben, tous essayaient de trouver une explication causale, tous. Donc aujourd'hui, on nous dit l'astrologie n'est pas causale chez les astrologues. En général, maintenant, ils en sont là, mais en fait, c'est contraire à toute la tradition. Donc ça, c'est un sujet parmi d'autres. Le fait de faire le bilan un peu de toutes les expérimentations qui ont été faites, ça c'est un truc aussi que j'aimerais beaucoup faire. Et là, je viens d'entrer en contact avec Geoffrey Dean, qui est un sceptique australien. Et donc, je viens d'acquérir un bouquin qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Astrology Under Scrutiny, qui est introuvable sur Internet. Il faut contacter un éditeur pour ça. Et donc là, je viens de recevoir le livre et il fait, semble-t-il, un petit peu une compilation de 110 articles qui ont été publiés, donc sérieux. Donc je n'ai pas encore pu aller voir, mais à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant.
Oui, dans le livre, il y a chaque fois l'article. C'est des articles complémis ou ils résument les articles?
Non, ce sont des résumés. Donc voilà, et puis je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir ça. Et donc, dans le travail, moi, que je fais, ça aussi, ça a beaucoup joué à mon retour de la Sorbonne, quand on s'intéresse aux origines de l'astrologie, comment elle est apparue, et avant même l'astrologie, comment le zodiaque est apparu, là, on est vraiment en plein dans l'histoire de l'astronomie. Et en fait, pour qui aime l'astronomie et l'histoire de l'astronomie, c'est super intéressant aussi. Mmh. Ça nous renvoie à l'astronomie mésopotamienne, qui est avant l'astronomie grecque, et qui est complètement différente, et sur laquelle il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, mais maintenant il n'y a quasiment plus personne qui travaille là-dessus. Et il y a aussi des choses à faire, donc j'en parle dans mon bouquin. Et puis après, pourquoi c'est intéressant? Parce que comprendre comment fonctionne la pratique de l'astrologie, certains biais, je pense que ça peut renseigner en fait sur toutes les divinations. Donc on retombe un peu dans les démarcations science et pseudo-science, mais comme l'astrologie c'est très technique, ça permet vraiment d'avoir des détails qui sont des caractéristiques propres à l'astrologie.
Hier, tu me racontais à propos de ce chercheur australien qu'il est d'un âge plus que vénérable.
Oui.
Ça pose toujours la question de... Enfin, quand nous, on discute, on se rend compte que, dans le fond, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se font sur le sujet, ce qui est assez étonnant. En fait. Du côté des sceptiques américains, malgré... tout ce que j'écoute et je lis, j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un qui faisait un travail comme le tien.
Ouais.
Et ça, c'est finalement assez... Et bon, l'explication que j'ai, c'est toujours l'idée que les gens disent « Bah oui, l'astrologie, l'affaire est entendue, tout a été quasi... » les gens ont la sensation que tout a été fait sur le sujet, alors que finalement, à part... on cite la recherche sur l'effet Barnum de Forêt, et puis c'est une publie... Et... On peut difficilement dire que le tour du sujet a été fait.
Ah non, complètement. Quand tu évites la question technique, c'est beaucoup plus simple. Mais quand tu rentres dans la technique, dans la pratique de l'astrologue, c'est beaucoup plus complexe. Et puis, comment dire? Moi, j'ai vraiment l'impression de pouvoir apporter quelque chose de neuf au niveau de la technique, comme je vous l'ai présenté hier. Et c'est vrai que je pense que ça permet d'expliquer des choses plus clairement. Est-ce que ça va toucher les astrologues? Ça, c'est la grande question, moi j'espère. Et puis de poser des questions nouvelles. Donc, si on peut poser des questions nouvelles, là aussi, c'est intéressant du point de vue de la connaissance. Comme hier, je vous disais, mais est-ce que c'est l'astrologie qui traverse les siècles ou est-ce que c'est le système astrologique? Et c'est complètement différent, parce que si tous les astrologues se disent, oui, l'astrologie a 5000 ans, donc je ne suis pas d'accord sur les 5000 ans, c'est beaucoup moins, mais peu importe, on pense que si l'astrologie a traversé les siècles, c'est qu'il y a quelque chose de vrai derrière, c'est un argument en fait. Alors qu'en fait, si tu pars du principe que c'est le système astrologique qui traverse les siècles, et que chacun peut y projeter un peu ce qu'il veut, finalement, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelque chose derrière ce système, quelque chose qui soit vrai. Si lui-même est suffisamment complexe, et techniquement, et symboliquement, pour expliquer qu'on puisse y adhérer, non seulement c'est un argument en moins pour l'astrologie, la durée n'est pas un argument pour la validité, ça c'est pas nouveau, mais pour les astrologues ça l'est. Et d'un autre côté, je me suis encore laissé prendre mon truc.
Ouais, sinon, juste pour réagir à ce que tu disais avant à propos de la causalité, je te laisse le temps de réfléchir, mais c'est vrai
Ouais.
que je pense que ça c'est l'impact aussi de Carl Gustav Jung avec sa synchronicité hein, qui a été énorme.
Bien
Je
sûr.
pense qu'on peut pas sous-estimer l'influence de Jung et comme il a publié sa fameuse plaquette sur la synchronicité en tant que principe à causal dans les années 40-50. Je crois que là, après Jung, c'est facile pour les voyants, les radiesthésistes ou les. Enfin, des tarologues et les astrologues de dire, bah oui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est acausal. Même si, dans le fond, c'est vrai que la réaction qu'on peut avoir, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire par là? Mais moi, j'ai tendance à voir là-dedans l'influence énorme de Carl Gustav Jung sur la pensée de tous ces gens, quoi. C'est vrai que.
Alors oui, en tout cas il est très souvent cité dans le milieu.
C'est vrai.
Effectivement, bien sûr, bien sûr. Mais le problème de la synchronicité pose aussi des problèmes quand on prend la chose au mot, puisque la synchronicité, en gros, adaptée à l'astrologie, ce serait que si les astres sont là à ce moment-là, c'est pas par hasard, enfin, s'ils forment certaines configurations. Mais il n'y a pas de causalité, c'est juste qu'ils sont là au bon moment, et donc la synchronicité à ce niveau-là, c'est de dire, voilà, il y a la présence, et donc il y a un rapport, il y a un lien, mais il n'y a pas de cause. Le problème, si on le prend au mot, comme je vous le disais hier, c'est qu'il y a toujours plein de configurations qui sont là. Et finalement, celle qui correspond à l'événement, elle est là, ce n'est pas par hasard, mais toutes les autres qu'on n'utilise pas, elles sont là aussi, mais on ne s'en sert pas. Et comment ça s'appelle ça? C'est de l'asynchronicité? Parce que finalement, que celle qu'on retient soit là pas par hasard, mais que toutes celles qu'on n'utilise pas, bah, elles soient là pour rien, elle est où la synchronicité finalement? Donc, enfin, moi, je sais que la synchronicité, ça m'a toujours gêné. Et finalement, en proportion, en gros, puisque l'astrologue n'utilise qu'une petite partie de toutes les configurations, bah, finalement, on va dire que la normalité, c'est le contraire. La synchronicité, c'est l'exception quasiment. Donc, moi, ça me gêne. Et donc, j'ai repris le fil de ce que je disais tout à l'heure. Si c'est le système astrologique qui traverse l'histoire, en fait, ça peut permettre de rendre compte du fait que toutes les astrologies diffèrent d'une époque à une autre. Et ça, les astrologues ne savent pas comment l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas tous la même chose? Avec des milliers d'années d'ancienneté, il devrait y avoir une forme de consensus, au moins sur certaines choses. Et on se rend compte qu'en fait, ben, non seulement l'astrologie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 100 ans, simplement 100 ans en arrière, il n'y a pas eu toute l'influence de Freud, de la psychanalyse et de toutes ces choses-là qui ont vraiment agi sur l'astrologie. Et puis si on remonte au temps de Kepler, c'est pas la même astrologie. L'astrologie des Arabes vers l'an 1000 est différente. L'astrologie grecque, c'est encore un peu différent. Et alors en Mésopotamie, vraiment, ça n'a rien à voir. Et ça, les astrologues ne l'expliquent pas. C'est limite beau pour eux. Ah ouais, c'est chouette, les astrologies sont différentes, c'est la richesse de l'astrologie. Bah oui, mais sur le fond, c'est juste contradictoire. Et aujourd'hui, ça continue. Il y a plein d'écoles différentes. Et pourquoi est-ce qu'il y a des écoles aussi différentes? Des écoles qui s'opposent au point d'être incompatibles. Le point de vue un peu fleur bleue, c'est de dire, bah, c'est la richesse de l'astrologie. On observe tous la même chose de façon différente. Mais non, il y a des postures qui sont inconciliables. Et donc, moi je pense qu'avec ce genre de questionnement, en mettant l'outil astrologique au centre, on peut renouveler en fait des questionnements et commencer à comprendre, à expliquer un petit peu certaines choses. Et je parlais aussi de la question du brainstorming. Je pense que comparer la pratique de l'astrologie à une forme de brainstorming, ça ouvre des champs pour comprendre ce qui peut se passer dans la consultation, le fait que ça puisse apporter de la nouveauté sans pour autant être fondé sur rien du tout. Il n'y a pas besoin. Et voilà, et je pense qu'il y a plein de choses à faire de ce côté-là, et que ça permet de rendre compte de la complexité simplement des relations humaines encore plus, et pas caricaturer en disant que l'astrologie est stéréotypée. C'est malheureusement beaucoup plus complexe que ça.
Ouais, puis pour la raison, enfin, la valeur de travailler sur ces sujets, c'est vrai que souvent, on voit que les jeunes qui arrivent dans le mouvement zététique ou le mouvement sceptique se demandent finalement c'est quoi la zététique ou le scepticisme. Et la position que je défends, enfin, je pourrais dire le scepticisme classique, mais si on dit le scepticisme classique, c'est les sujets dont on est en train de parler. Et on dit, ben on va faire, j'aime bien le mot érudition, c'est de l'érudition. Les sceptiques, c'est des érudits qui travaillent sur ces sujets-là et qui font une contre-littérature, en
Oui,
fait. Et
oui.
le but, c'est même pas tellement de convaincre, enfin, même si on peut avoir l'espoir que ça déborde sur la communauté qu'on contre-argumente, mais c'est simplement que cette contre-littérature existe et que. Parce que c'est une tâche sisyphéenne à recommencer de génération en génération, parce que les mouvements dont on parle sont en évolution progressive.
Voilà.
Donc, je veux dire, toi tu fais le travail maintenant, mais peut-être que dans un certain temps, il y aura des nouveaux types d'astrologie, des nouvelles choses qui auront émergé et quelqu'un va
Certainement.
le reprendre. Pour moi, ça c'est vraiment le. Enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle le scepticisme classique, quoi.
Oui.
Et c'est vrai que bon, la valeur de la chose, bah oui, les érudits, ils ont toujours travaillé sur des choses bizarres. Hein. Enfin, ouais, si on est un spécialiste de la période Sengoku au Japon, la période des guerres, à quoi ça sert? Bah, ça sert à rien en fait. Ça sert à créer de la vie intellectuelle, je veux dire.
Exactement.
Et en fait, c'est ce qu'on disait hier quand on est revenu, les sujets sur lesquels les sceptiques travaillent ont beaucoup plus d'impact social que les guerres de 100 ans au Japon. L'astrologie, les gens y croient encore. Les ovnis, les gens y croient encore. Enfin, c'est un peu ma réponse à la question que je te posais sur pourquoi travailler sur ces sujets-là, quoi.
C'est marrant parce que c'est un peu un argument que je donnais quand j'essayais de trouver un directeur de recherche. Et donc j'en ai trouvé 8, mais qui me proposaient un travail sur autre chose, puisque le sujet de l'astrologie, personne ne le maîtrise, surtout du point de vue technique. Et c'est vrai que je me rappelle un des arguments que je donnais, c'est d'un point de vue citoyen, il y a des gens qui y croient, les horoscopes sont dans plein de magazines, etc. Je veux dire, c'est un sujet actuel. Et je comprenais pas pourquoi on pouvait donner une bourse, une allocation de recherche à quelqu'un qui allait travailler sur, je me rappelle, je disais, la poésie au début du XIIIe siècle dans l'Italie du Sud. Et j'avoue que voilà, ça c'est des choses que j'avoue, je comprends pas ou je comprenais pas, mais oui, mais je pense qu'il y a une actualité de ce côté-là et il y a des choses à faire.
Ouais, mais je pense que c'est toujours le problème qu'il y a des sujets qui sont perçus comme non légitimes dans le monde académique ou pas sérieux. Et c'est vraiment de la sociologie des sciences, quoi. Pourquoi ces phénomènes, ces sujets-là sont. D'ailleurs, Jean-Bruno Renard avait écrit un article classique au début des années 90 sur la sociologie du paranormal, où il montrait que le champ de la sociologie du paranormal inclut l'astrologie, hein,
Oui.
était complètement sous-exploité, quoi. Si tu faisais une revue de la littérature, il n'y avait rien dans ce domaine, quoi.
D'accord.
Et il disait, il comparait ça avec la science-fiction, quoi. Pourquoi les universitaires, enfin les lettrés ne s'intéressent pas à la science-fiction? Parce que la science-fiction, c'est pas noble, quoi. C'est pas de la littérature noble.
Ouais.
Et il disait, pourquoi les sociologues, les anthropologues s'intéressent pas aux croyances paranormales chez nous? Bah, parce que c'est pas noble, quoi, pour la même raison. Maintenant, c'est vrai que je pense, enfin, pour le vivre un peu du côté de mon travail sur les ovnis dans le monde académique, je pense que c'est tout à fait vrai. Enfin, il y a ce genre de sociologie des sciences à l'œuvre. Mais c'est vrai que le mouvement sceptique a justement toujours été là pour dire on va réunir des intellectuels et qui vont faire ce travail parce que les autres ne le font pas, quoi. En gros, ça a été l'idée du psychop dès le
Oui.
départ.
Oui. Moi, il y a plusieurs choses là-dessus. Par exemple, je pense que ça, il serait possible que je puisse faire un doctorat, par exemple, sur la question astrologique, mais au XVIIe siècle, par exemple. Ça, on me l'a proposé, par exemple. Et donc, du point de vue historique, la question astrologique, ça intéresse en histoire des sciences. Même si l'astrologie n'est pas une science, mais en tout cas, dans l'histoire des sciences, quand on pensait qu'elle en était une, ça présente un intérêt. Alors que l'astrologie actuelle, ça n'en présenterait pas. C'est paradoxal. Et en fait, je pense vraiment aussi que la critique a tellement accentué une partie de son travail sur les horoscopes, et sur les signes et les constellations notamment, qu'on a l'impression que finalement c'est très simple et qu'effectivement il n'y a pas grand chose à aller chercher derrière. Et moi j'espère que c'est aussi ce que je vais montrer, c'est que le sujet est très complexe. Et du fait qu'il soit complexe, il est intéressant. C'est intellectuellement, c'est un défi d'arriver à mettre de l'ordre là-dedans.
Oui, c'est un des points que j'aime bien dans ton travail, c'est le fait que tu montres que les critiques qu'on reproche à l'astrologie habituellement ne tiennent pas la route. Et encore ce matin, au petit déjeuner, on parlait de l'effet foraire, et puis l'effet foraire qui est cité par tous les sceptiques partout dans le monde. Tu me disais que ça s'applique qu'aux horoscopes, et les horoscopes, c'est pas vraiment ce que les astrologues utilisent vraiment. Et donc, finalement, c'est aussi une critique qui tombe un peu dans l'eau, quoi, ou alors, qui est facilement contre-argumentable pour eux.
Donc là, moi, je me suis pas assez documenté, donc je peux pas conclure aussi fortement que je le fais sur les signes et les constellations. Mais c'est vrai que moi, ce qui me gênait avec l'effet Barnum, c'est que les personnes se reconnaissent dans des généralités. Donc, déjà, dans les horoscopes, on fait des fois des prévisions. Donc les prévisions, est-ce qu'on est dans l'effet Barnum ou c'est juste la personnalité? C'est déjà pas pareil. En plus, un horoscope, c'est par définition en quelques lignes, donc ça se prête très bien à la question de l'effet Barnum. Quand tu prends un thème de naissance, ça peut faire plusieurs dizaines de pages. Alors il peut y avoir que des généralités dans ces dizaines de pages, mais ça commence à faire beaucoup. Et puis finalement, on se reconnaît pas dans toutes non plus. Donc on se reconnaît dans certaines, c'est l'effet Barnum, et quand on se reconnaît pas, c'est quoi? C'est pas l'effet Barnum, par exemple? Bon, ça c'est une question qui me gêne. Moi, ça me pose problème. L'autre chose, c'est est-ce que l'effet Barnum, c'est se reconnaître soi seulement dans des généralités? Et quand on reconnaît quelqu'un d'autre, par exemple, quand on fait le thème de quelqu'un ou quand on dit bah oui, ma soeur, mon frère correspond bien à son signe astrologique, est-ce qu'on est encore dans l'effet Barnum? Parce que là, on l'applique à quelqu'un d'autre et plus à soi-même. Or, on est censé être plus objectif avec les autres qu'avec soi-même. Bon, là, je me suis pas assez documenté, mais ce sont des questions qui me font dire que l'effet Barnum, ça n'explique évidemment pas tout en astrologie. Et ce que je te disais aussi ce matin, c'est que quand on prend un thème de naissance où il y a 10 ou 15 paramètres à l'intérieur, qui souvent se répartissent un petit peu de partout, il y en a certains, c'est juste plus rare, où un peu comme mon thème finalement, où tu as plus d'astres dans un seul signe. Et dans ces cas-là, quand l'astrologue fait le thème de naissance, son portrait est beaucoup plus simple à faire. Parce qu'il tape dans un seul symbolisme, ce qui fait que il peut un petit peu approfondir un peu plus le symbolisme en question. Alors que dans la majorité des cas, si tu es né avec le Soleil en Verseau, avec Mercure en Poisson, avec Vénus juste à côté, Mars ailleurs, etc., finalement l'astrologue est obligé de taper dans plein de symbolismes et on est peut-être plus facilement dans la généralité. Donc la pratique de l'astrologie, c'est un petit peu plus complexe.
Ouais. Mais je trouvais que tu l'expliquais bien, c'est vrai que c'est la stratégie de la lecture à froid, je crois que je t'appelais ça le toucher-couler ou un truc,
c'est une métaphore de bateau,
la bataille navale, je crois que c'est... Et ça, c'est pas de l'effet Barnum, c'est vraiment de la lecture à froid, quoi, de mentionner beaucoup de choses et puis d'être réceptif aux réactions de la personne.
Voilà, et à celles qui touchent en fait. Donc tu balances des interprétations, et puis au bout d'un moment, alors ça peut être très rapide, effectivement, tu as la personne qui réagit en face de toi, et là tu dis « Ah, on a touché quelque chose », sauf que ça se fait inconsciemment, puisque la personne est là pour avoir un conseil, et quand tu es astrologue, tu es là pour l'aider. Donc c'est pas, je pense qu'il faut pas voir ça comme de la manipulation, en disant « Ah, ça y est, là je l'ai attrapé, on va aller là-dessus ». Non, c'est juste que là, il y a quelque chose qui correspond, et donc on va approfondir de ce côté-là. Donc une fois que la sélection a été faite, donc la comparaison avec la bataille navale, c'est qu'on ne sait pas où sont les bateaux, donc on va taper un peu de partout. Et puis à un moment, on entend toucher, et là on se dit « Ah, c'est là qu'il faut taper », et on va taper juste à côté. Et donc pareil, si quand tu fais tes interprétations, à un moment tu touches la personne, et ben tu sais que là il y a quelque chose, et puis ben, tu vas utiliser le symbolisme astrologique pour voir comment creuser la question. Et c'est une technique de lecture à froid en fait.
Moi j'ai l'impression que souvent les arguments qu'on entend contre l'astrologie, c'est vraiment finalement contre les horoscopes, quoi. Et ce que j'entends fort chez toi, c'est les horoscopes, c'est à la limite c'est presque périphérique à l'astrologie, ou c'est un produit dérivé de l'astrologie mais qui n'est pas vraiment ce que revendiquent les astrologues eux-mêmes. Et du coup on est un peu dans le straw man, dans l'argument d'épouvantail, si on dit on démolit l'astrologie en critiquant les horoscopes, quoi.
Ben complètement, c'est quasiment le point de départ de mon travail. Entre les horoscopes et les signes et les constellations, sont les deux gros épouvantails qui, à mon avis, peuvent être contrés assez facilement, mais finalement ça reste le gros fond de la critique. Et c'est vrai que quand t'es chez les astrologues, enfin, tous les astrologues ou quasiment rejettent ces horoscopes de presse, qui sont caricaturaux, qui sont contraires aux principes même techniques de l'astrologie. Et en fait, quand tu vas voir plus loin, les gens qui produisent ces horoscopes de presse, en général, sont soit des astrologues amateurs, c'est-à-dire qui font ça comme ça, soit de toute façon des gens qui ne sont pas impliqués dans la communauté, qui ne sont pas donc représentatifs des astrologues. C'est pour ça que critiquer l'astrologie via les horoscopes, c'est pas complètement absurde, parce que ça montre qu'il y a des dérives, que l'astrologie peut aller jusque-là, ça reste de l'astrologie quand même, mais ça permet pas de rendre compte de ce qui se passe dans la consultation par ailleurs. Et en même temps, hein, je veux vraiment préciser que c'est pas parce que ces deux champs de critique, à mon avis, sur les horoscopes et les signes et les constellations sont vraiment discutables, que ça sauve l'astrologie. Non, il y a plein, plein, plein d'autres façons de l'analyser de façon critique, et notamment par le biais de la complexité.
Dans ta lecture, tu aurais une idée je veux dire, de la croyance en l'astrologie en France? Parce que je pense que aussi, peut-être que c'est le problème de la tour d'ivoire, hein, c'est des universitaires, c'est qu'ils ont l'impression finalement, plus tellement de personnes n'y croient. Et ce qui t'a prémuni de cet argument de la tour d'ivoire, c'est que tu y as cru toi-même. Mais je pense que quand je réfléchis à pourquoi les universitaires trouvent que c'est pas un sujet important, il y a cette impression que, oui, c'est vrai qu'il y a des horoscopes dans les journaux, mais personne n'y croit. Hein. Enfin, il y a un peu cette impression-là. Enfin, on doit quand même avoir plus ou moins, je veux dire, on doit avoir une idée du nombre d'astrologues et du type de consultation. Ça représente quoi en France?
Alors là, franchement, justement, je n'ai pas les chiffres, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des chiffres. Quand j'étais encore du côté des astrologues, justement, on s'en plaignait un petit peu, puisque les astrologues étaient dans la même catégorie que les voyants, les chiromanciens, etc. Autrement dit, régulièrement dans les magazines, dans les débats, tu entends qu'il y a 50 000 astrologues en France. Non, il y a 50 000 individus qui font de la voyance, de l'astrologie, du machin et du truc. Mais en fait, les astrologues qui en plus ne font que de l'astrologie, moi les chiffres que j'entendais c'était 2-3 000, mais il y a aucune vraie source pour mesurer ça. Donc j'avoue que je peux pas dire combien il y a de personnes, ni combien de personnes ça touche. Il y a aussi une autre grosse erreur pour moi qu'on a faite il y a quelques années, c'était sur des gros sites internet, style, je crois que c'était Astro Center, qui justement regroupait un très très grand nombre de consultations. Parce que ça passait par Internet, ils étaient très visibles, ils communiquaient beaucoup. Il y avait une batterie d'astrologues, dont des professionnels qui étaient là, qui recevaient les gens par téléphone. Et donc, bah, ça a beaucoup marché, semble-t-il. Et donc, il y en a qui ont commencé à comparer les revenus que ça engendrait avec les revenus de l'astrologie en général. Je pense que c'est pas si simple. De même, les astrologues les plus connus, qui peuvent gagner de l'argent avec l'astrologie. Donc, on trouve souvent ça dans la critique, c'est-à-dire, mais oui, les astrologues gagnent très bien leur vie. Ben non, quand tu vas chez les astrologues, tu te rends compte que c'est des gens qui gagnent pas bien leur vie, qui souvent ont un boulot à côté, qui font ça presque plus par passion, parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Et en fait, ben c'est un petit peu, moi je compare avec les stars du football, quoi. C'est pas parce que tu fais du foot que tu es riche. Ben, les stars sont super riches, bien sûr, elles touchent énormément d'argent. Mais le footballeur en lui-même ne touche pas des millions à chaque fois qu'il tape dans un ballon. Donc il y a des raccourcis comme ça qui font que c'est pas, enfin, c'est pas si simple.
Ouais, non, c'est clair. Oui, il y aurait certainement un sondage à faire ou à refaire, mais sur juste demander aux gens des questions du type est-ce que vous pensez que les astres peuvent influencer le cours de votre vie? Est-ce que vous pensez que le moment de votre naissance a un impact sur votre personnalité? Et faire un questionnaire juste qui permettrait de déterminer un peu l'état de ces croyances dans un public occidental en France ou en Belgique, quoi. Et c'est vrai que même moi qui lis quand même pas mal la littérature, juste ça, je peux pas dire que je suis vraiment l'astrologie, mais j'ai jamais vraiment vu passer ce genre de truc, quoi.
Alors, il y a des sondages, hein, qui existent, il y en a à peu près un tous les 10 ans. Mais je serais incapable de te donner les chiffres, vraiment les résultats. J'ai l'impression que ça varie en fait sur 10 ans. Je pense que l'actualité joue beaucoup. Enfin, après, c'est pareil, ça me ramène à mon histoire, mais quand il y a le tsunami qui passe en 2001, qui tue 300 000 personnes et qu'il n'y a pas un astrologue qui l'a prévu, ça fait un coup aux astrologues. À l'astrologie. Et moi, je me rappelle que les 2-3 années qui ont suivi, autour de nous, les astrologues disaient, mais on... Alors, je dis des bêtises, ça peut pas être en 2001, j'étais pas encore au contact avec eux, donc c'était plus tard, je sais plus quand est-ce qu'il a eu lieu. Peut-être en 2005. Et en fait, donc les 2-3 ans qui ont suivi, les astrologues autour de moi disaient qu'ils avaient moins de monde. Donc, ce genre d'événement peut influer vraiment sur la croyance. Et puis en même temps, il y a d'autres moments où ça peut aller dans l'autre sens. Mais de mémoire, dans les sondages, il y a vraiment une démarcation entre la prévision astrologique et l'astrologie de naissance. Et de mémoire, les chiffres sont toujours plus importants sur la caractérologie astrologique. Les gens y croient plus que les prévisions astrologiques. Après, je ne sais pas de quand datent les derniers sondages, par contre.
J'ai pas trop de mal à le croire. C'est vrai que bon, non, ouais, ce serait intéressant de voir les questions parce qu'en même temps, ça doit être un continuum, quoi. Ça doit pas, les gens doivent pas avoir des croyances absolues en la matière. Ils doivent, si tu fais une échelle en disant entre 1 et 5, est-ce que vous pensez que les astres ont une influence sur votre comportement? Tu dois avoir des gens qui aussi dans le milieu,
Oui.
quoi. Ouais. Mais c'est juste marrant, quoi. Que ce genre de données soit pas si connues, même enfin, d'où d'un vétéran du scepticisme comme moi. Ça montre un peu le problème du désintérêt pour l'astrologie dans la communauté, quoi. Et je pense que de toute façon, même s'il y avait peu de gens qui y croyaient, je me doute que ça doit pas être une croyance là, enfin, je sais pas, par exemple, comparé à des croyances style le christianisme, comme ça, c'est pas la croyance la plus importante, mais ça. Pour moi, c'est même pas important en termes de travail d'érudition à faire, quoi. Par exemple, moi, je travaille sur les ovnis, mais dans la population qui croit vraiment aux visites extraterrestres, bon, il y a des sondages aux États-Unis, évidemment, ça, mais je veux dire, c'est même pas un argument pour ou contre l'étude d'un sujet. Je veux dire, c'est pas, même si on a 1% de la population qui y croit, ça vaut la peine d'étudier le sujet, quoi. C'est vrai
Bien
que.
sûr, bien sûr. Mais ouais, tu vois, avec les théories du complot, par exemple, actuellement, c'est la grande mode. Et avec Internet et tout ça, moi, je me demande si ça pourrait pas relancer les croyances dans l'astrologie. Parce que quelque part, croire que l'astrologie, ça marche, alors qu'on n'arrive pas à trouver de causalité, c'est un petit peu, j'ai envie de faire un parallèle avec une forme de complot des dieux ou des astres. C'est-à-dire, ouais, mais il y a des choses qu'on sait pas, il y a des influences invisibles, et finalement, c'est pas très étonnant, et finalement, l'astrologie, c'était pas n'importe quoi. Je verrais bien ce genre de mauvais raisonnement qui pousse les gens vers l'astrologie.
Ouais,
Je n'en serais pas du tout étonné.
ça serait vraiment des questions de psychoanalytique, c'est avoir un peu les types de personnalités qui. Est-ce que les gens vont vers l'astrologie à cause d'une pensée plus complotiste ou. Ce que tu évoquais plutôt sur les sentiments mystiques, ça évoque plutôt les. Dans le psychoanalytique, on parle plutôt d'absorption, de capacité à. On médite et alors on rentre vraiment très très fort dans sa méditation, ça c'est un autre trait de personnalité. Qui est corrélé aux croyances au paranormal en général. Ouais, bah voilà, c'est des idées pour les gens qui veulent travailler sur la question du paranormal.
Tout à fait.
Ouais, c'est clair. Bah, écoute, je crois qu'on a bien discuté,
Oui,
mais
merci bien.
je sais pas si tu as un. Ah, bah si, il y a un mot de la fin que tu dois dire, c'est parler de ton bouquin
Ah
définitivement.
oui.
Bon, c'est ton livre.
Eh bien écoute, oui, normalement, j'espère pouvoir faire sortir mon bouquin à la fin du mois, donc fin décembre 2015, début janvier peut-être. Et donc, ce sera le premier tome de 3, j'espère. Et donc, j'appelle ça le... Comment dire? Le titre, c'est Astrologie, la fin des mystères, avec un point d'interrogation. Et les mystères en question, c'est auxquels je m'attaque, c'est du point de vue de l'astrologue, mais pourquoi l'astrologie, est-ce que ça marche si bien? Alors que les scientifiques montrent que c'est pas possible, qu'il y a des contradictions, mais pourtant ça marche tellement bien, ça c'est un mystère pour les astrologues. Et l'autre question, ben, qu'on évoquait tout à l'heure, mais comment on peut encore croire en l'astrologie avec toutes les connaissances qu'on a maintenant qui contredisent l'astrologie? Et donc pourquoi les astrologues y croient? Et moi donc j'essaye d'apporter mon expérience ben, d'ex-astrologue pour montrer, essayer de se mettre un peu à la place de l'astrologue, voir ce qui se passe à l'intérieur dans la pratique. Et donc, comme c'est un sujet technique, je l'ai partagé en 3 niveaux de difficulté, ce que j'ai appelé le fil vert, le fil bleu et le fil rouge, un petit peu comme les pistes de ski. Donc, on commence avec le fil vert, ce qui permet d'aborder plein plein de problématiques différentes que on va approfondir dans le fil bleu et puis essayer vraiment d'aller plus loin dans le fil rouge, qui sont déjà écrits aux 2 tiers chacun. Mais l'ensemble faisait déjà 500 et quelques pages, donc c'est pour ça que j'ai finalisé la première partie. Voilà. Donc j'espère que ça va sortir d'ici quelques semaines.
Super. Eh bien, c'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. À une prochaine, Serge.
À une prochaine, avec plaisir.